Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Troisième saison pour cette émission unique en son genre sur notre chaîne après une deuxième qu'on pourrait qualifier de chaotique. Depuis le mois de mars et jusqu'à dimanche dernier, vous avez pu rattraper quelques-unes des émissions que vous aviez peut-être manquées grâce au programme de rediffusion de France Culture. Mais à partir d'aujourd'hui, et j'espère bien jusqu'en juillet prochain, ce sont de nouvelles émissions que nous vous proposerons. La formidable équipe, toujours vaillante des bonnes choses, est toujours à mes côtés et heureusement, à savoir Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulain, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis. Notre partenaire Alimentation Générale est toujours d'attaque en la personne de Pierre Hiverna que j'ai le grand plaisir de saluer. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Comment s'est passé l'été ?
L'été s'est fort bien passé, en travaillant, parce qu'il a fallu rattraper un peu quelques retards dus au Covid.
Comment va Alimentation Générale, la plateforme des cultures du goût ?
Alimentation Générale va très bien.
Ah, ben ça c'est une très bonne nouvelle. Et comment va cette chronique, la cerise sur le gâteau que vous nous annoncez aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui va sérieusement égayer votre rentrée, et je crois qu'on en a bien besoin.
Tout à fait. À tout à l'heure, 12h25 pour la chronique La cerise sur le gâteau. Matteo Caranta, bonjour.
Bonjour Caroline.
Comment s'est passé votre été ?
Bah fort bien également, et puis là j'ai le plaisir de revoir Pierre Hiverna, donc c'est le plaisir.
C'était un été italien pour vous ?
Absolument. De Naples à la Toscane à Rome, plein de bonnes choses découvertes aussi.
Et de Madeleine.
Et de Madeleine, absolument.
Vous allez Madeleine voir. En prévision aujourd'hui à 12h15.
Je suis allé rencontrer quelqu'un qui, lui, en cette rentrée de vacances, est plutôt sur le départ. Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra de Paris, mais qui, lui, nous fait carrément remonter à des origines bien plus à l'Orient, vous verrez. Enfin voilà, tout un voyage.
Nous aussi, on va faire un voyage, parce que pour cette première, nous avons eu envie de prolonger le goût de l'été et de partir du côté de Marseille, ou plutôt de faire venir un peu de Marseille à nous, tant que la situation sanitaire aussi tendue là-bas qu'ici, à Paris, à vrai dire, nous le permet et j'ai le plaisir d'accueillir un cuisinier pas comme les autres qui aime être un peu ici et un peu là, qui a pris le train du sud pour monter à la capitale nous rejoindre, laissant la mer, les calanques, ses poissons et son pastis au soleil. C'est en sa compagnie que nous avions fait les premières bonnes choses. C'était déjà à Marseille, au Mucem, il y a 2 ans. Il avait été notre guide dans la passionnante exposition consacrée aux 200 ans d'histoire du repas des Français. C'était surtout tout l'historien qui s'était exprimé à ce moment-là, eh bien nous remettons le couvert avec lui pour ouvrir cette nouvelle saison en nous adressant cette fois à l'amateur de cuisine.
L'alimentation marseillaise, c'est le grand mix. Marseille ne serait pas Marseille si on n'avait pas toute cette mixité. Dieu soit loué.
Ah, la cuisine marseillaise, elle est bonne, mais il faut prendre du temps, que ce soit pour une bouillabaisse ou que ce soit pour des gras doubles. Il faut prendre le temps. La cuisine, il faut avoir le temps. Et avoir l'amour de cuisiner. Qu'est-ce que la cuisine, c'est pour faire plaisir aux autres.
Donc la bouillabaisse, moi je la détourne en fait. Donc je ne veux pas l'appeler une bouillabaisse. Par contre, j'utilise tous les ingrédients de la pêche d'ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui émane du goût de Marseille à travers, entre la mer et la colline en fait. Donc vous avez le safran qui vient des collines, l'ail, les oignons, etc. Et puis vous avez qui rencontre la mer avec les petits poissons de roche.
Dans certains pays, dans les pays du Moyen-Orient, avec le pois chiche, on fait le houmous avec la terrina. Délicieux. Et ici, bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la panisse. Et les gens qui sont un peu spécialistes et qui aiment manger ça, ils vont à l'Estac, ce fameux village marseillais. C'est délicieux.
Et la brousse du Rov, ben, c'est une brousse faite à base de lait de chèvre du Rov, qui sont des chèvres particulièrement sexy, avec des cornes africaines sublimissimes. Et cette brousse-là, ouais, c'est vrai que c'est une estampille marseillaise, on va dire des Bouches-du-Rhône plutôt. Et ça se mange avec du miel ou ça se mange avec de l'huile d'olive et un coup de poivre. Ouais, ça, c'est Marseille aussi, ouais.
Ouais. C'est ça, Marseille, c'est aussi le grand mix, c'est aussi cette grande culture, c'est aussi cette grande mixité, cette grande transversalité, je dirais, avec tout le pourtour méditerranéen qui est là et qui apporte une énergie assez folle et incroyable.
Et la voix du grand chef Alexandre Madia qu'on entendait à l'instant. Bonjour Emmanuel Perraudin.
Bonjour Caroline.
Bienvenue dans ces bonnes choses.
Merci pour cette invitation.
Qu'est-ce qu'ils ont oublié, là, dans ce petit mix sur les goûts de Marseille?
Ils n'ont pas oublié grand-chose, en fait. Hein. Ils ont dit un peu l'essentiel, mais on ne peut pas tout dévoiler. En fait, une des choses qui caractérise Marseille, c'est le masque. Et c'est le fait de toute façon...
Vous dites ça parce que vous l'avez enlevé, votre je masque, pour parler?
Non, je dis ça, c'est une vraie spécificité. Ça. Le fait d'avoir le verbe haut, par exemple, ou de mettre en avant des produits, ou de mettre en avant certaines recettes et compagnie, mais qui finalement masque ce qui se cache derrière, finalement. C'est un vrai curseur, en fait, de l'identité marseillaise, de mon point de vue. C'est William Cobb qui disait ça. Si les Marseillais ont le verbe haut, c'est aussi pour masquer le sens profond qu'ils ont du tragique. Et c'est une façon aussi de, presque, de confronter ceux, les impétrants, à une forme d'initiation, finalement, pour aller au-delà des simples apparences et des premières apparences.
Alors, on va poser la question dans l'autre sens. Ce serait quoi le goût masqué de Marseille?
Le goût du corset, je pense. Je pense que ce qui caractérisait jusqu'à présent le goût marseillais, c'était le goût du corset. Marseille est une ville qui se réinvente hein, en permanence. Marseille a joué un rôle très un peu particulier dans la gastronomie française. C'est que c'est là que tout est né finalement. C'est pas la plus ancienne cuisine de France, mais les deux plus anciennes sont la cuisine béarnaise et la cuisine de Franche-Comté. Mais Marseille a un rôle bien particulier, c'est que c'est là que va se nouer finalement la rencontre entre l'ici et l'ailleurs, entre la culture celto-ligure et puis la culture méditerranéenne. Avec cette arrivée des Grecs, avec l'olivier, avec une attention particulière aussi pour le vin, enfin cette triptyque méditerranéenne qui va rencontrer le sol national et qui va irriguer le reste de la France avec, on va dire, on va imaginer un couloir rhodanien et puis un faîtage qui se trouve à Paris. Mais tout se trouve et tout se joue encore aujourd'hui. Ces racines-là, elles sont encore vraiment vivantes et vivifiantes à Marseille. Barthes aurait pu dire que c'est une cuisine revigorante et vivifiante à l'opposé de tout ornementalisme, justement.
Qu'est-ce qui rapproche les deux directions, c'est-à-dire le côté tourné vers la Provence et puis l'autre tourné vers la mer?
C'est une ville qui est en dialogue permanent, en fait. Ce qui rapproche, en fait, c'est... Elle s'entend, se comprend dans cette compréhension fine, justement, de que la frontière n'existe que par les fractures. Elle est l'inverse de toute notion de terroir, en fait. Évidemment que le terroir marseillais est extrêmement important. Évidemment qu'il faut favoriser, valoriser en fait toutes les productions locales. Mais elle est aussi en permanence cette interrogation sur l'ailleurs. Il y a toujours cette question en fait quand on met en avant le local ou le locavore strict à Marseille et de se dire qu'on va aussi un peu à l'opposé de ce qu'est la ville, puisqu'elle s'est construite justement dans son rapport au monde extérieur en fait, le paradis des dattes, le paradis de l'orange. Cette ouverture comme ça, enfin la première tomate c'est ici, la première artichaut c'était également ici. C'est pas rien tout ça, le café aussi, c'est aussi Marseille finalement, pour la première fois en France. Nous sommes, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas repliés sur un terroir. Nous ne sommes pas repliés sur un territoire. Nous sommes évidemment ce territoire-là, mais nous sommes aussi, de toute façon, ouverts sur l'ailleurs, sur l'extérieur. C'est extrêmement important.
Ouais, d'une certaine façon, c'est aussi ce qui vous caractérise, en tous les cas, qui caractérise ce que vous faites, Emmanuel Perraudin, être ici et ailleurs. On dirait presque que vous êtes un pur Marseillais, si vous ne descendiez pas de vos montagnes du Jura où vous êtes né. Mais en l'occurrence, le ici et ailleurs, pourquoi? Parce que vous êtes vous-même un chef nomade. C'est comme ça qu'on présente ces chefs qui n'ont pas de restaurant et qui n'ont pas d'ancrage dans un territoire. Vous aimez papillonner, aller au gré des vents. Alors, en restant quand même à peu près dans ce territoire marseillais, en tous les cas des Bouches-du-Rhône, ou vous bougez quand même aussi beaucoup?
Non, je bouge aussi ailleurs. Alors, j'aime bien le terme de pérégrin aussi, l'étranger ici. Et c'est aussi une des choses qui me font aimer profondément. Enfin, c'est ma ville en fait. Je suis pas né. J'ai un attachement profond pour la Franche-Comté, mon Jura, mais j'ai un amour passionnel pour la ville de Marseille. C'est assez saisissant de voir comment ces paysages-là, c'est l'ambiance, le soleil en fait, comment cette ville-là m'habite profondément. Et donc oui, alors évidemment, j'interviens beaucoup à Marseille, mais j'ai aussi la chance d'être artiste associé de la scène nationale du Mans. Je crois que la scène nationale est une des rares aujourd'hui à avoir un gros pool d'artistes associés. Et elle a la particularité d'avoir deux artistes un peu en marge. Le premier, c'est un slammer et puis un cuisinier, ce qui est assez rare pour être noté. On va mener ensemble 4 projets différents cette année à partir du mois d'octobre. Il y a finalement assez peu de scènes. Je pense à Calais, notamment, qui fait aussi pas mal de choses aussi autour des rapports entre la cuisine et les autres arts, en fait, avec notamment les grandes tables qui ont mené un gros travail avec le Chanel, justement, là-dessus.
C'est quoi les grandes tables?
Les grandes tables, en fait, c'est une structure qui est née il y a 13 ou 14 ans maintenant de cela, à Marseille, à La Friche, qui a été créée par deux personnes remarquables, Fabrice Lextret et Marie-Josée Ordener, et qui ensuite s'est développée en France, alors à Calais, dans un premier temps, et puis aussi à Paris, à un moment donné, au 104. Je crois à l'île Seguin, si mes souvenirs sont bons. À partir de la semaine prochaine, à la Comédie à Clermont-Ferrand. Et puis elle a crié aussi à Marseille. Ils sont essentiellement dans des lieux culturels, mais ils remplissent la fonction de nourrir. Ça, c'est la cuisine du quotidien. Mais il y a aussi cette volonté de se tourner vers un peu l'extraordinaire et de porter des choses qui sont remarquables dans des interventions artistiques ou des créations de spectacles. Au 104, l'année, je crois que c'est la semaine prochaine aussi, va se jouer le dernier spectacle de Johan Le Guilherme en catation, qui a été monté avec Alexandre Gauthier, mais qui est porté éminemment...
Le chef Alexandre Gauthier de la Grenouillère.
De la Grenouillère, oui. Mais qui est porté éminemment par Marie Jouard l'année.
Et vous, Emmanuel Perraudin, dans le cadre de ces grandes tables, depuis le 6 juillet et jusqu'au 4 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, du lundi au vendredi dès 18h30, vous êtes l'un des quatre as artistes culinaires qui organisent des soirées culinaires au Vieux-Port avec la collaboration du Théâtre de la Criée. C'est des soirées à quatre mains.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Alors, je vais parler des trois autres aussi qui sont avec
moi.
Alors, il y a Georgina Viau, qui est une des figures aussi un peu marseillaises. Sarah Chounier, qui est une jeune chef que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai découvert au résident à Paris. Et la dernière, qui est Charlotte Baldaquin, qui est la plus jeune de nous quatre et qui est la chef en poste du Théâtre de la Criée. Et l'idée, c'était de permettre... Tout était dans le flou, finalement, au mois de mai. On ne savait pas exactement où on allait. On voulait, malgré tout, maintenir quelque chose. Enfin, avoir confiance, finalement. Lancer un signal, en fait, aussi bien pour la restauration que pour le milieu de la culture. Macha Makaïev voulait vraiment ouvrir...
La directrice du Théâtre de la Criée.
Du Théâtre de la Criée voulait maintenir l'ouverture de son théâtre. Normalement, il est fermé en août, mais là, en fait, il y avait une vraie volonté, en fait, d'ouvrir le théâtre tout l'été au public, en fait. Et on s'intègre là-dedans de façon, finalement, assez modeste. Et en même temps, bien plus complexe que ça. Mais c'est ce qui est, finalement, la cuisine. C'est-à-dire quelque chose qui... L'air de ne pas y toucher, finalement, va interroger des choses bien plus profondes. Et donc, on fonctionne par binôme. On travaille évidemment qu'avec des maraîchers de la zone marseillaise ou à proximité, de la pêche locale, évidemment.
Donc, vous faites quand même des dîners.
Oui, on fait des dîners, des petits dîners.
Nous, avec ambiance extrêmement populaire. Sonore, avec scénographie.
Oui, avec une ambiance sonore qui a été imaginée par un jeune compositeur qui s'appelle Clément Garcin, qui a fait un très très joli travail en collaboration avec Radio Grenouille sur... à la fois des captations de voix de, bien sûr, Macha Makaïev, mais aussi le grand Marcel Maréchal, en fait, qui est celui qui a été le premier, en fait, à porter le théâtre. Et puis, des pêcheurs, de la musique, en fait.
Et qui vient dîner? Qui mange ce que vous faites? Le public?
Le public.
C'est ouvert au public.
On a voulu des prix extrêmement doux, hein, extrêmement simples, extrêmement populaires, en fait, pour que tout le monde puisse y venir, en fait.
Et comment ça se passe aujourd'hui avec les restrictions dues à la situation sanitaire? On a appris il y a quelques jours que les terrasses, les cafés, les restaurants allaient fermer à partir de 23h à Marseille. Donc, comment ça va se passer maintenant?
On fermera une heure plus tôt, en tout cas dans notre cas, mais bon, enfin... J'ai du mal à comprendre, en fait, cette fermeture entre 23h et 6h du matin. Je vois pas bien où est le sens, en fait, quel est le sens, en fait, de cette interdiction. J'ai pas bien regardé quelles étaient les attendues, en fait, de l'arrêté préfectoral. Loin de moi, l'idée, en fait, de mettre en doute les décisions du gouvernement et de la préfecture. Mais bon, je reste dubitatif et extrêmement étonné qu'on nous demande de fermer entre 23h et 6h du matin. Je suis pas bien persuadé que ce soit là que se trouvent les principaux développements de clusters ou de, enfin bon.
Jusqu'à présent, les gens sont venus, les Marseillais sont venus.
C'est une vraie réussite, en fait. Marseille a été une ville extrêmement vivante cet été. Il y a eu plein de belles initiatives qui ont été lancées. Des choses à la Villa Gabi qui a été enfin ouverte au public avec une jeune restauratrice qui a fait un travail remarquable autour des cuisines de la Méditerranée. D'une façon plus festive, il y a eu le Baou dans les quartiers nord, donc du côté du Grand Littoral. Il y a eu l'ouverture dont on a beaucoup entendu parler de Tuba au Goud. Alors malheureusement, il y avait un projet avec un jeune homme qui s'appelle Guillaume Chupeau qui voulait montrer un restaurant éphémère. On devait ouvrir à la Madrague, donc aussi pas très loin des Goudes. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu, mais ce sera le cas l'année prochaine. Et le toit terrasse de la Friche aussi, de toute façon, tous les jeudis, vendredis, samedis soir, dimanche soir, enfin, qui est ouvert au public. C'est une ville qui est extrêmement vivante.
Et donc, ça n'empêche pas, Emmanuel Perraudin, même cette situation, d'y faire des choses extrêmement insolites, par exemple d'organiser des dîners insolites, c'est ce que vous avez fait l'année dernière.
Oui.
Et on va voir ça après la matinée.
Des œufs pour dîner?
Je mange des œufs n'importe quand, c'est rapide.
C'est bizarre.
Des œufs pour dîner, c'est pas bizarre. Si vous trouvez ça bizarre, vous êtes bizarre.
Je précise tout de même que bizarre et insolite, ce n'est pas tout à fait le même sens.
Mathéo,
c'est à vous pour la Madeleine. Vous nous disiez que vous aviez rencontré le directeur actuel, en tout cas, de l'Opéra de Paris.
Oui, Stéphane Lissner, directeur depuis 2014 et qui va terminer son mandat pour prendre la tête du Teatro San Carlo dans une ville cousine de Marseille, reconnue elle aussi pour son port. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Naples. Alors pour sa Madeleine, Stéphane Lissner ne s'est pas rendu à Naples, mais il a plutôt remonté aux origines orthodoxes et russes de sa grand-mère.
Ma Madeleine, c'est un gâteau que très peu de gens connaissent qui s'appelle la passera, qui est le gâteau que l'on fabrique pour la Pâque orthodoxe russe. C'est un gâteau qui ressemble beaucoup à un fromage blanc, qui a égoutté assez longuement pendant plusieurs jours, et qui a un goût difficilement exprimable, au sens où ça peut faire penser évidemment à un fromage blanc. Il y a en général des fruits confits également. Ça a une forme conique, et c'est un goût légèrement âpre. Il est un peu sec, mais en même temps, il est doux au goût. Il est sucré. Pour moi, c'est un goût pour les enfants. Alors, il se mange froid. La tradition veut qu'on le mange en buvant du thé. Alors, c'est un gâteau, je peux imaginer, qu'on peut prendre seul pour le thé, ou qu'on peut prendre après à la fin d'un dîner. Mais je pense plutôt à la fin d'un dîner, parce que ça fait vraiment partie de la tradition. J'avais une grand-mère russe qui était née à Moscou, Alice Spandikov, et qui est venue en France au moment de la Révolution. Et chaque année de cette Pâque russe, il y avait toute une cérémonie dans sa petite cuisine, cachée sous un torchon. Elle agissait un peu comme un prestigitateur et me demandait qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sous ce torchon. Nous savions très bien, elle et moi, ce qu'il y avait. Mais c'était un jeu, et donc je me prêtais à ce jeu. Et c'est pour moi un moment très important de ma vie, parce que c'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a fait découvrir beaucoup de choses dans la musique et la littérature russe, évidemment. Donc j'ai lu très jeune tout le théâtre russe. Et j'ai complètement abandonné l'idée de retrouver ce gâteau jusqu'au jour où, en parlant avec quelqu'un de cela, j'ai commis un acte extrêmement banal et très simple. J'ai regardé sur Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite épicerie dans le 15e arrondissement qui fabriquait la passera. Et j'avais pas l'idée finalement d'aller l'acheter. C'était un gâteau qu'elle me faisait pour moi, mais c'est pas un gâteau que je pouvais acheter.
Merci Matteo Caranta pour cette madeleine de rentrée avec Stéphane Lissner. Nous sommes pour notre part en compagnie d'un franc-comtois de Saint-Amour dans le Jura, chef sans frontières, ogre de savoir, passeur de saveurs dans l'assiette et sur scène, accrocheur de wagons entre culture et frichti. C'est l'ami Jackie Durand qui le définit ainsi dans Libération. Et notre invité est donc Emmanuel Perraudin. Emmanuel Perraudin, on va parler de vos dîners insolites, des dîners organisés dans le cadre de l'année de la gastronomie en Provence, mais c'est aujourd'hui un livre paru aux éditions de l'Épure. Mais avant cela, j'aimerais vous demander à vous ce qui vous a donné le goût des bonnes choses. Pas nécessairement la madeleine d'Emmanuel Perraudin, mais au moins quelque chose qui vous a donné envie de cuisiner, puisque vous étiez historien de formation. Alors comment on passe de l'anarcho-syndicalisme au fourneau?
Ouh là là, ce serait long. C'est le hasard en fait qui m'a amené derrière les fourneaux. Vraiment, c'est le hasard. Nous vivions avec mon épouse à Paris. Et on voulait partir de cette ville pour pouvoir avoir des enfants. Je voulais aller vivre à Bruxelles et elle voulait aller vivre à Marseille. Nous avons décidé donc finalement d'aller nous installer à Marseille. Je travaillais dans l'internet à l'époque. J'ai rien trouvé de concordant avec ma formation et mon parcours sur place. Du coup, je me suis dit, bon, comme j'ai financé mes études en faisant de la cuisine pendant quelques temps à Paris, je vais faire la même chose ici. Et je suis tombé amoureux de ce métier-là. Dans ce premier restaurant marseillais dans lequel j'ai travaillé, qui s'appelle le restaurant Perron, qui est toujours un des beaux restaurants de la ville, j'ai compris là, en fait, que la cuisine pouvait être un langage. J'ai compris qu'il pouvait se passer de mots à ce moment-là. J'ai compris qu'il y avait une vraie musicalité, en fait, derrière le goût. J'ai compris que là, je pouvais... Je mets les mots aujourd'hui, évidemment, ça m'est pas apparu comme ça, mais j'ai eu une forme, à un moment donné. En septembre, c'était un samedi soir, en septembre. Tout le monde s'apprêtait pour le service, il n'y avait que le bruit des casseroles qui devenait presque musique. Et j'ai compris là, tout de suite, que si jamais je pouvais un jour mettre quelques notes sur le solfège du monde, ce serait grâce à la cuisine.
En faisant de plus en plus des ponts entre les arts, oui, et la cuisine, oui, alors parlez-nous de ces dîners insolites que vous, oui, avez organisés et, oui, qui font aujourd'hui l'objet d'un grand et beau livre avec, oui, textes et photos à l'appui des souvenirs où on voit des immenses tablés, puisque là aussi le public était invité, oui, à déguster ce que vous aviez concocté. Alors c'était pas vous le cuisinier, mais, non, vous organisiez comme un directeur artistique.
Oui, alors j'étais directeur artistique de la manifestation, mais c'est pas moi qui les ai... Enfin, c'était une œuvre collective, hein. Et donc avec les grandes tables, on se réunit pour Frère Brice et Marie-Josée, pour imaginer quelque chose. Dans l'écriture, montrer comment la table, en fait, cette table-là qui est pensée, la table en elle-même, l'installation en elle-même est pensée par Marie-Josée, c'est un seul arbre. qui est débité, en fait, pour que chaque personne se trouve sur ses 40 mètres, en fait, de ce seul arbre, et partage vraiment, en fait, ce même instant. Il y a une forme de performance artistique derrière, évidemment. L'idée, c'est de recréer l'instant, de recréer un instant. Évidemment, il est dilué dans le temps. Là, il était dilué à travers 16 moments différents, disséminés dans tout le département. 16
Donc
lieux.
16 chefs aussi différents.
16 chefs différents à chaque fois, qui vont chacun donner une vision de leur cuisine de Provence, mais aussi une interrogation sur le lieu sur lequel ils se trouvaient, sur leur pratique également, le dialogue qu'on pouvait avoir aussi l'un avec l'autre, montrer aussi comment la table pouvait et comment cette performance-là, en fait, pouvait se vivre comme une histoire potentielle.
Puisque vous faites effectivement un certain nombre de liens aussi avec les mots, vous le dites, maintenant vous mettez des mots sur ce que vous faites, oui. Emmanuel Perraudin, et en particulier les mots de la cuisine, vous en avez mis un certain nombre pour écrire 3 livres consacrés à 3 produits,
oui.
Qui sont des produits que vous aimez particulièrement. Le comté, c'est peut-être vos origines franc-comtoises, je ne sais pas, l'oursin, et évidemment la bouillabaisse, ces 3 livres qui ont paru aux éditions de l'Épure. Vous ne savez pas résister aux fleurs de courgettes, mais plutôt que les fleurs de courgettes, comme il nous reste assez peu de temps, j'aimerais, oui. bien que vous nous parliez de votre bouillabaisse.
Oui. Ma bouillabaisse. Alors, la bouillabaisse, en fait, il y a une 40aine d'années de cela, peut-être même 50 maintenant, Raymond Oliver décide de donner sa version de la bouillabaisse sur le RTF, et il avait mis longtemps, en fait, avant de le faire, parce qu'il savait très bien que ça allait être compliqué, et il a eu raison, parce que je pense que jamais son émission n'avait reçu autant de lettres d'injures et d'insultes à propos d'une recette. Parce que, en fait, c'est s'attaquer à la bouillabaisse à l'époque, c'était s'attaquer vraiment à un lien physique avec la cuisine des pères et la cuisine des mères. Et que ce plat-là a une particularité, c'est qu'il n'a pas de recette clairement établie. Le fait de l'avoir fixé d'ailleurs dans une charte me paraît, moi, un peu mortifère pour cette recette. Parce que c'est la fixer dans une liste de poissons, alors qu'en fait c'est le vent qui décide aussi. C'est Raymond Dumais qui disait, avec la poésie qu'il caractérise, que la bouillabaisse devait avant toute chose avoir le parfum de la rose des vents. C'est-à-dire que, évidemment, que les restaurateurs à la fin du 19e siècle ont décidé de codifier les poissons de première catégorie, deuxième catégorie, ceux qui sont plus ou moins utilisés, la langouste même, enfin, la langouste dans la bouillabaisse. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qui n'a pas de sens, en fait. Voyez, on peut le trouver encore aujourd'hui sur le vieux port, mais c'est inenvisageable. Les Corses le font, mais c'est normal parce qu'en fait, il suffisait de se baisser pour en avoir de la langouste. Donc, du coup, ça avait du sens. Mais, avec la bouillabaisse, c'est là que j'ai compris que le goût du sud, c'était le goût du corsé, parce que il y a 2-3 choses qui sont un peu essentielles dans ce plat-là. Après, on peut en faire un peu aussi. Ce que disait Christian Key dans l'introduction était, dans la petite installation que vous avez diffusée tout à l'heure, était vraiment très intéressante. Le dialogue entre la terre et le dialogue avec la mer. Et donc, on retrouve ça avec le poireau, c'est vraiment pour moi le légume essentiel de ce plat-là. Avec l'ail, évidemment, mais, et les poissons de roche. Surtout la rascasse, qui va apporter ce goût de corsé, en fait. Et je parlais de la langouste, j'ouvre beaucoup de parenthèses, je suis désolé, et on met pas de langouste dans la bouillabaisse, par exemple, à Marseille, parce que ça donne le goût de fort, en fait, à la soupe de poisson. Et c'est comme aujourd'hui, maintenant, on pourrait pas imaginer une bouillabaisse sans pomme de terre ou sans rouille à Marseille, sauf que la pomme de terre, elle est apparue grosso modo dans les années 40-50 à Marseille, en tout cas pour la bouillabaisse. D'ailleurs, longtemps, ce légume a été rejeté par les Provençaux, ils pouvaient pas en entendre parler. Et puis la rouille, c'est pareil, c'est une invention des Martigues, qui a mis du temps avant de venir jusqu'à Marseille, en fait. C'était vraiment quelque chose de Martégal, c'est-à-dire que avoir l'idée de mélanger de la soupe de poisson avec de la rouille, c'est-à-dire de remettre du goût d'ail, en fait, alors que l'essentiel, c'était aussi la valorisation du poisson et de l'huile d'olive, tout ça paraissait un peu compliqué pour les Marseillais des années 20 ou 30.
Je ne savais pas que j'allais ouvrir une porte aussi grande en vous posant la question de votre bouillabaisse, Emmanuel Perraudin. Mais oui. Vous savez quoi? Parce qu'on aurait pu faire, en fait, toute l'émission aujourd'hui sur la bouillabaisse d'Emmanuel Perraudin. Je vous propose une chose, puisque nous arrivons à la fin de l'émission et qu'il faut qu'on écoute quand même la chronique de l'ami Pierre Hiverna. Je vous propose une chose, c'est que vous donner à Roxane Poulain cette recette,
oui.
avec, sans pommes de terre, avec, sans langoustes, avec, sans... voilà, oui, la recette de la bouillabaisse d'Emmanuel Perraudin que nous mettrons sur le site internet de l'émission pour terminer en beauté et pour prolonger en beauté cette émission. Mais je sens que vous avez encore quelque chose à ajouter.
Non, non, avec grand plaisir, chère Caroline, je ne me tais.
Cher Pierre Hiverna, un livre donc pour clore cette émission.
Oui, Caroline, je voulais vous parler d'un livre qui devrait fortement intéresser Emmanuel Perraudin, puisqu'il y est question à la fois d'histoire de la gastronomie et d'art contemporain. Et d'abord, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler d'une pure inconnue dans le monde de la cuisine, en la personne de Véronique Yersin, qui est directrice des éditions Macula, et sans qui un ouvrage aussi gonflé n'aurait jamais pu voir le jour. Voilà 40 ans cette année que les éditions Macula s'ingénient à publier des objets totalement singuliers dans le monde de l'art, et en abordant la cuisine, ils n'ont pas dérogé à leur karma que d'offrir au lecteur l'objet le plus insolite qui soit.
Alors, je vais quand même essayer pour nos auditeurs de vous décrire la chose qui se présente en trois parties. La première, qui ouvre l'ouvrage, a été conçue par l'universitaire Jean-Claude Liebenstein et s'essaye sur toutes les pages de gauche et uniquement sur les pages de gauche, avec un texte quiché en haut et à gauche, comme on dit chez Emmanuel Perraudin, à une synthèse complète de l'histoire de nos manières de table d'Érasme à nos jours. En regard, donc, sur les pages de droite, on trouve des facsimilés de recettes en vieux français de ce qu'il est convenu de considérer comme le premier livre de cuisine moderne qui s'intitule « Le cuisinier français » de François-Pierre dit Lavarenne, paru en 1651, et que Emmanuel Perraudin connaît bien. La deuxième partie de l'ouvrage se situe, disons, dans la quatrième dimension de la cuisine, celle où l'on s'interroge sur la différence de taille entre l'art gastronomique et toutes les autres formes artistiques, avec cette question centrale, comment rendre compte d'une œuvre éphémère ? Parce que même si les restaurants sont devenus aujourd'hui le royaume de tous les Instagrammeurs du monde, qui n'en rendent compte qu'à travers les formes et les couleurs des plats servis, la réalité gustative, elle, reste enfermée pour toujours dans notre cerveau et notre mémoire unique de mangeur. Et il fallait bien les immenses cuisiniers Michel et César Troisgros pour accepter qu'un photographe s'intéresse non pas aux plats sublimement dressés dans leur restaurant, mais aux plats desservis. En clair, ce qu'il reste dans l'assiette juste avant la plonge. Et comme vous l'imaginez, chez Troisgros, il reste pas grand-chose. Et c'est le photographe plasticien Éric Poitevin qui a donc choisi des assiettes dont les convives anonymes étaient, sans le savoir, les auteurs d'œuvres picturales minimalistes d'une sublime beauté, entièrement composées par les traces de leurs gestes de mangeurs sur le fond blanc immaculé de leurs assiettes. Et puis, pour que le lecteur puisse recomposer la matière manquante, dans la troisième partie de l'ouvrage, sont donc publiées les recettes correspondantes à ces photos mystérieuses, la mémoire objective du plat, verbalisée avec des mots écrits. Et donc, entre les photos des cadavres des plats d'un côté et les recettes écrites de l'autre par les chefs, ne reste plus au lecteur qu'à mettre simultanément en branle son cerveau et ses papilles pour reconstituer dans son imaginaire le goût du plat sans rien à se mettre sous la dent. Le livre s'intitule « Servez citron » et croyez-moi, il donne un sérieux coup de frais d'acidulé au monde de l'édition des livres sur la gastronomie.
On va aller voir en librairie, je crois, hein, pour se faire notre propre idée. Merci beaucoup Pierre Hiverna. Un grand merci Emmanuel Perraudin d'être venu jusque chez nous. Je rappelle le titre du dernier livre paru aux éditions de l'Épure qui s'appelle « Les dîners insolites » et qui laisse une trace de ces formidables moments, manifestement, que vous avez contribué à organiser avec les grandes tables. Et les grandes tables qu'on retrouve donc toute la semaine encore avec les quatre as culinaires dont vous faites partie. Toute la semaine, c'est sur le Vieux-Port, donc à Marseille, où tous les Marseillais sont invités à aller avec gestes barrières et sécurité sanitaire, bien sûr, respectés. C'est la fin de cette émission. Les bonnes choses qui se poursuivent sur franceculture.fr où vous pouvez réécouter et podcaster chaque émission à tout moment. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Anthony Thomasson, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, ce sera le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weissmann. À dimanche prochain.